Allez, 8h53, on prend la route de la musique avec André Manoukian ce matin, la musique des morts.
Wolfgang, depuis que tu as découvert les fugues du vieux Bach, tu ne cesses d'en jouer. Tu es compositeur, écris-en une. Ah ouais, ah non. Tu sais quoi, continue plutôt à jouer celle du vieux, c'est mieux. J'ai découvert la musique du père de Bach, et ben c'est vachement bien, écrivait Mozart à sa sœur en 1782. Il revient d'un concert qui l'a bouleversé. Le baron Van Swieten, personnage excentrique, donne une fois par mois des concerts baroques, une forme oubliée depuis des lustres. À cette époque, à Vienne et dans toute l'Europe, on ne jure que par le style galant, une musique facile dans laquelle l'accent est mis sur la séduction mélodique et où la virtuosité est perçue comme une fin. Mozart est au sommet de ce style. C'est son génie qui le distingue de ses confrères compositeurs qui font danser la cour et les salons bourgeois. De Jean-Sébastien Bach, Mozart ne connaît que le dernier fils, Jean Chrétien. Il avait alors 8 ans, c'était à Londres, et cette rencontre a été déterminante pour l'enfant qu'il était, puisque c'est justement Jean Chrétien qui va l'initier au style galant. Jean Chrétien qui a tué le père et qui avoue sans honte composer pour vivre et non vivre pour composer. Bien des années plus tard, lors de cette fameuse soirée chez le baron Van Swieten, une musique inouïe au sens propre du terme éclate aux oreilles de Wolfgang. La rigueur du contrepoint, la richesse des fugues, des rosaces flamboyantes de sons qui se dessinent dans l'espace, tout l'émerveille. Il rentre chez lui, se procure toutes les partitions des fugues de Bach, les joue et puis tente d'en écrire. Il est déjà dans sa 26e année et ça fait longtemps que c'est un génie. Seulement voilà, l'art de la fugue, c'est l'art de la fugue. Il fait une vingtaine d'essais, tous ratés, au point que sur l'une d'entre elles, il écrit de sa main en allemand « Je suis un âne ». Cette scène se passe 30 ans à peine après la mort de Jean-Sébastien Bach, et pourtant, Bach est déjà oublié depuis longtemps. Ce qui était normal, car à l'époque, on ne jouait pas la musique des morts. Une deuxième mort va survenir pourtant pour Bach, et cette fois-ci de la main de ses propres enfants. Carl Philipp Emanuel invente la forme sonate, et Jean Chrétien excelle dans le style galant. Mais personne ne reprend l'art de la fugue et du contrepoint. Et pour cause, au-dessus de l'Everest, qu'a-t-il ? Le vide. On ne pouvait aller plus haut. Bach avait atteint les limites de son art. Il faudra attendre près d'un siècle avant qu'il ne soit redécouvert. Berlin, 11 mars 1829. Le roi de Prusse et toute sa famille sont installés dans la Zing Academy. Félix Mendelssohn Bartholdy dirige face au public. L'événement a été annoncé par une campagne de presse sans précédent. L'œuvre la plus importante et la plus sacrée du plus grand musicien voit ainsi le jour, après avoir été dissimulée pendant près d'un siècle. Ce soir-là, on joue la Passion selon saint Matthieu, un des chefs-d'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Après ce concert, on va réaliser que le passé recèle des trésors enfouis, qu'il faut les ressusciter. Alors on va compiler, archiver, inventorier. Les écoles de musique centraliseront désormais ce savoir oublié. Nous sommes en plein 19e siècle, et comme ceux qui partent à la recherche du patrimoine musical sont des messieurs, dès qu'une œuvre est signée par une femme, ils rayent son prénom et attribuent l'œuvre soit à un frère, soit à un mari, ou tout simplement, ils jettent l'œuvre à la poubelle. Et voilà comment les femmes furent rayées du grand livre de la musique à la fin du 19e siècle. Et voilà comment nos écoles de musique, recueillant les archives du passé, sont devenues des conservatoires au sens littéral du terme.
Merci André Manoukian. À demain sur les routes de la musique. Votre ouvrage du même nom sur les routes de la musique aux éditions France Inter et HarperCollins.